Alors, c'est un réseau de radiotélescopes qui a montré cette découverte. Et il est vrai que la radioastronomie, si on la prend historiquement, au départ, ça ne faisait pas des jolies images parce que les instruments étaient de mauvaise qualité. Et depuis quelques années, en couplant les télescopes les uns avec les autres, en fait, on arrive à avoir des images beaucoup plus fines et beaucoup plus précises que les télescopes optiques, même que le HST. Et donc, effectivement, là, c'est un gros coup, un bon coup, puisque l'idée de montrer réellement un trou noir qui se détache sur un fond lumineux, c'est marquant, on va dire, pour le grand public, c'est clair. Maintenant, d'un point de vue purement scientifique, c'est pas une révolution, on va dire quand même.
C'est pas une révolution,
Non.
non. D'accord. Ok, question plus simple, enfin plus simple façon de parler. Est-ce que l'image est fidèle au modèle qu'on avait sur les trous noirs,
Oui.
selon
Alors,
déjà créé?
effectivement, l'image qui a été montrée, c'est un disque noir entouré d'un liseré coloré avec, on va dire, des variations d'intensité dans ce liseré. Et donc, ça, c'était prévu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malgré une résolution diabolique qui est affichée à quelques micro-arcs-secondes, il manque encore de la résolution pour voir des détails à l'intérieur de ce liseré qui pourraient aller encore plus loin pour montrer la dynamique du nuage qui est autour du trou noir. Donc, si on regarde les simulations qui sont proposées au départ, elles sont beaucoup plus fines que ce qui a été observé en fait.
Oui. Ouais. En parlant de simulation, moi-même j'en avais codé une dans mon
Ouais.
projet de master. Donc c'était génial. Au bout de quelques lignes de code, on avait déjà une simulation d'un trou
Eh
noir, à
oui.
peu près une image à peu près similaire à celle qui est sortie aujourd'hui.
Ouais.
Pour ça, moi j'étais content
Eh
d'avoir
ben
cette image.
oui, bien sûr, ouais.
Alors ok, donc quelles ont été d'après toi les plus grosses difficultés pour assembler, enfin pour faire cette image?
Alors, bah, la grande difficulté, c'est évidemment de reconstituer le signal, parce que je rappelle quand même juste au passage que, en gros, on capture une onde électromagnétique et qu'il faut enregistrer l'onde électromagnétique sous la forme de l'onde elle-même, avec sa polarisation, avec des temps qui sont extrêmement précis, puisque après tout ça, c'est mis sur des disques durs. Ça voyage en avion, quoi. Et après, on reconstitue une image à partir de ce qui est stocké sur les disques. Ce qui est assez incroyable, hein, parce que si on voulait faire ça au niveau optique, on n'y arriverait pas, parce que les longueurs d'onde ne permettraient pas de stocker pareil. Mais c'est justement le challenge de se dire, eh bien, on a découpé la lumière en 1000 morceaux, on l'a stockée sur un disque dur, et ensuite on reconstitue tout pour faire une image, un truc assez incroyable. C'est un peu comme le magicien quand il découpe la dame et qui ensuite il recolle les boîtes et elle sort en disant coucou, et c'est
C'est
un peu la
génial,
même magie.
c'est génial. Ouais, c'est sûr que c'est magique comme alors. Autre question, que moi je trouve assez importante. Quel est l'intérêt d'une observation directe, puisque aujourd'hui maintenant on commence à faire l'observation directe de trous noirs, par rapport aux observations indirectes qu'on a déjà fait au préalable?
Alors, l'observation directe, elle a toujours un intérêt, c'est que par exemple ici, on voit directement le diamètre du trou noir, alors que d'habitude, on le détermine de façon indirecte. Là, ici, on peut vraiment l'estimer, et donc évidemment, le confronter à la théorie, ça a un intérêt majeur. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est pas révolutionnaire parce que finalement, on tombe sur les résultats qui sont attendus. Donc, il n'y a pas de souci, on va dire, par rapport aux théories existantes. On ne va pas tout chambouler. Par contre, le fait déjà de confirmer, c'est quand même satisfaisant.
C'était aussi satisfaisant que la découverte du boson de Higgs, par
Ah, ben
exemple,
c'est
qui était tout à fait
exactement.
conforme au modèle qui
Mais
avait.
bien sûr,
Voilà.
les gens finalement se sont auto-congratulés de quelque chose qui était complètement prévu. Et donc, on se dit, on est les meilleurs. C'est très satisfaisant quelque part. Il faudrait un jour étudier ça avec des chercheurs en sociologie pour savoir pourquoi un chercheur en sciences se satisfait d'une telle mesure.
En sociologie, d'accord. Du coup, voilà, on apprécie plus le côté révolutionnaire de l'observation elle-même plutôt que la vérification du modèle.
Oui, bien sûr, parce que le challenge technologique, il est derrière aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Et que si on n'a pas une belle image ou une image un peu spectaculaire à montrer, en fait, on a beau avoir franchi des étapes technologiques importantes et qui, même pour un pays, est assez stratégique, alors que finalement, si on n'avait rien à montrer, on dirait simplement, ouais, nous, on a un super instrument, on fait des mesures, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Ce serait dommage.
Ouais, effectivement, les gens, comme les investisseurs, sont des saint Thomas, ils croient ce qu'ils voient, quoi, seulement. C'est plus facile de les convaincre que quand on leur montre.
Mais absolument, absolument. Mais ouais. C'est évidemment le syndrome HST, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fait des belles images des nébuleuses pour que le contribuable se dise j'ai payé quelque chose pour avoir un poster que j'affiche chez moi dans le hall d'entrée, quoi.
Voilà. Exactement. Alors, on en avait un tout petit peu déjà parlé, c'est quel est l'apport de cette photo sur la théorie des trous noirs, sur la science de l'univers en général? Est-ce que ça va impacter un peu la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui?
Alors, ce qui, pour moi, est important, c'est de montrer qu'effectivement, maintenant, on est capable d'avoir des informations sur les trous noirs centraux des galaxies de façon assez directe. Et Messier 87... C'est une grosse galaxie, donc on va dire c'était peut-être la plus facile à observer. Maintenant, il y a d'autres galaxies qu'on connaît comme étant aussi, par exemple, moi je pense à Messier 77, je pense que ce sera la prochaine cible, parce que là il s'agit d'une ce qu'on appelle une galaxie de Seyfert. Et ces galaxies-là, elles ont des particularités qu'on a commencé à bien comprendre il y a une vingtaine d'années. Et là encore, ce serait très intéressant de regarder si le trou noir vérifie tout ce qu'on a émis comme hypothèse il y a 20 ans, juste en analysant de la lumière, on va dire, et en étant astucieux, et en faisant des petits modèles géométriques. Voilà, ça, pour moi, c'est le prochain challenge à faire.
Ah, super. Alors, toute petite dernière question. Voilà, il y a eu plus de, en tout, 200 scientifiques environ qui ont participé au projet. Est-ce qu'il y a eu des contributions françaises dans tout ça ?
Alors oui, il y a eu des contributions françaises au niveau radioastronomie, bien sûr, puisque l'IRAM était impliqué. C'est sur sol français, mais c'est une institution européenne, mais c'est à Grenoble. Et donc, il y a effectivement quelques chercheurs français qui sont impliqués dans les 200, qui font partie du grand projet, bien sûr.
OK. Ah ben, moi, toutes mes questions ont été remplies.
Et ben voilà, c'est parfait.
C'est parfait.